Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
En direct du Centre International de Presse, le Résidence Palace, où nous attendons Jean-Claude Juncker, vous le savez, président de la Commission européenne. C'est dans le cadre de cette grande opération, cette balade, si j'ose dire, ou voyage de l'Europe au cœur de l'Europe des crises que nous effectuons depuis quelques mois au matin de France Culture, et pas seulement au matin, avec d'autres émissions. Vous le savez, vous nous avez écouté en direct de Madrid, en direct de Londres, en direct de Rome, en direct de Catane. Nous sommes aujourd'hui à Bruxelles, à un moment clé de l'agenda européen qui doit résoudre ou pas la question, par exemple, de la crise grecque. Mais d'autres questions demeurent, bien sûr, ici, dans ce bâtiment Berlaymont que décrivait Quentin Higginson tout à l'heure. D'autres questions qui ont trait, bien sûr, à la politique des migrants, à la question aussi, bien sûr, de la transparence, notamment fiscale. En fait, toutes les questions qui agitent les débats européens et qui provoquent ça et là, qui c'est tantôt de l'europessimisme, tantôt de l'europhilie. On sait comment la France accueille régulièrement les décisions européennes avec cette sorte de scepticisme que l'on sait, et que Jean-Claude Juncker, qui sait, qu'on présente comme un europhile, bien sûr convaincu, fédéraliste de tout poil, essaye, qui sait, de tempérer. Quentin Higginson, bonjour.
Bonjour.
Vous connaissez, vous, Jean-Claude Juncker, que l'on attend là, d'un moment à l'autre, dans les studios de ce Centre International de Presse. Vous le connaissez depuis toujours. Bah tiens, on va démarrer par l'anecdote. Après tout, on allait lui poser la question. Il est bien cet homme que l'on a vu tapoter, quasiment gifler les chefs d'État, accueillir Orban, le président hongrois, d'un « bonjour dictateur », comparer ses cravates les unes aux autres. Le bonhomme, en tout cas, a l'air autrement plus détendu que son prédécesseur Manuel Barroso.
Alors, s'agissant de... On ne peut pas parler d'incident, d'ailleurs, mais c'est d'enchaînement d'événements de l'autre jour en marge du sommet du partenariat oriental en Lettonie, à Riga, effectivement, il faut bien se mettre à la place d'un président de la Commission européenne ou d'un président du Conseil européen ou du Premier ministre letton qui ont effectivement à accueillir pas moins de 34 chefs de délégation à raison d'un chef de délégation toutes les 90 secondes. Comment ça se passe? Eh bien, il y a une voiture de marque allemande.
C'est le festival de Cannes, quoi. Hein.
Voilà, il y a une voiture de marque allemande bavaroise, mais dont je tairai le nom, mise à disposition, donc pas achetée par la présidence lettonne de l'Union européenne, qui arrive. Un militaire à gants blancs, en deux temps, ouvre la portière arrière droite et un chef de délégation en surgit. Il fait 5 mètres et à ce moment-là, la chorégraphie est très compliquée, très très compliquée, parce que il voit d'abord Monsieur Tusk, puis Monsieur Juncker, puis Madame Straujuma, le Premier ministre letton. Comme c'est une dame, mais qu'elle est le plus loin, il se précipite sur la dame pour lui serrer la main en premier. À ce moment-là, Juncker est obligé de le rappeler pour qu'il serre la main à Tusk et à lui, Juncker.
Et que ça rentre dans la photo.
Et puis à ce moment-là, il faut qu'il se mette entre Tusk et Juncker pour la photo. Alors, j'étais en face de lui, et d'ailleurs, au bout de 10 fois, il n'en tenait plus, et il s'est mis effectivement à faire un peu le clown. Alors, il n'a pas giflé les chefs d'État et du gouvernement.
On va dire qu'il a donné une accolade un peu virile quand même. Hein.
Oui, il n'en a giflé qu'un véritablement, mais c'est son vieux complice, oui. le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, Jean Hasselborn, qui a l'habitude d'ailleurs de se faire gifler par lui, surtout quand ils sont au gouvernement ensemble. Donc effectivement, c'était une séance tout à fait rocambolesque, mais au fond, ça signifie qu'il est très ennuyeux de faire ce genre de choses protocolaires et qu'on a le sentiment qu'on est tellement ridicule en s'y tenant qu'en réalité, pourquoi ne pas faire un petit jeu de clown?
Alors, il est très ennuyé de faire, vous dites, tout ce ballet protocolaire, mais d'autant que Jean-Claude Juncker, on pourrait dire, il en a mangé et bu jusqu'à la lie de tous ces rituels protocolaires. Rappelons qu'il fut Premier ministre, qu'il fut ministre d'abord, à l'âge de 28 ans, puis 15 ans Premier ministre du Luxembourg, et que peut-être à force tout cela, qui sait, le rase un peu, disons-le clairement.
Oui, enfin, je crois qu'il n'est pas du tout fatigué du pouvoir, au contraire.
Il le voulait, en tout cas. Hein. C'est une ascension sans faille.
Il l'a voulu, secrétaire d'État, vous le rappeliez, à 28 ans, et ministre sans continuer, jusqu'à ce que le sort des urnes lui soit défavorable. Et quoique, d'ailleurs, il est dans une situation un peu particulière. Je ne vais pas vous faire un cours de politique luxembourgeoise, quoique.
Ah ben, je sais que vous pourriez le faire.
Absolument. Mais simplement, on peut estimer que aux législatives de l'année précédente, Juncker a gagné des élections et perdu la constitution de la coalition. Il s'en est fallu d'une voix à la Chambre des députés pour qu'il réussisse son coup et qu'il puisse reconduire sa coalition. Dans les faits, effectivement, il y a eu une espèce de montée des cadras contre lui et contre d'autres quinquas comme lui. Il y a eu une montée donc de ces nouveaux responsables politiques à la tête desquels se trouve l'actuel Premier ministre Xavier Bettel, qui est du Parti libéral, alors que, évidemment, Jean-Claude Juncker est du Parti social-chrétien, donc parti de centre-droit.
Quentin Dickinson, cet homme Jean-Claude Juncker, que nous attendons là, pour essayer d'évoquer toutes ces questions brûlantes au cœur de l'Europe, il a déclaré il n'y a pas si longtemps que finalement le dossier grec lui donnait quelques insomnies, qui sait d'ailleurs si du coup il ne s'est pas rendormi et que nous l'attendons toujours ce matin ici à Bruxelles. Mais au-delà de la boutade, est-ce que ça veut dire quelque chose de politique du monsieur Juncker? Tout à l'heure, Frédéric Bétézeau faisait allusion avec le retour, on va dire, de la politique ici à Bruxelles. Hier, quand on préparait l'émission, vous avez même corrigé Frédéric Quentin en lui disant non, c'est pas le retour, c'est l'arrivée de la politique. Que signifie cette question-là à travers une boutade, la Grèce menant des insomnies? Ça veut dire quelque chose ou pas politiquement sur ce qui nous agite aujourd'hui?
Oui, enfin, il n'est pas sûr que Jean-Claude Juncker, qui en a vu bien d'autres, perde effectivement le sommeil. Ce qu'il a voulu dire par là, effectivement, c'est que la situation est extrêmement préoccupante. Elle est d'autant plus préoccupante que, au fond, personne n'a vraiment barre sur cette situation. Elle part dans tous les sens. Un jour, l'on pense que l'affaire est réglée, que c'est pour dans 24 heures, les gens le répètent, et les marchés remontent, les marchés financiers remontent. Les marchés financiers font du yo-yo depuis 4 mois. À cause de l'affaire grecque. Et d'un autre côté, on s'aperçoit depuis hier, par exemple, qu'il y a eu une nouvelle rencontre entre Juncker et Tsipras.
Et M. Tsipras.
Et dont on pense, il nous le dira tout à l'heure quand il sera à ce micro, mais dont on pense qu'il n'est pas sorti grand-chose, plus exactement qu'on a redit exactement ce qu'on a dit jusqu'ici. Mais les conséquences sont graves parce qu'elles sont imprévisibles et qu'on voit à peu près ce qu'il faut faire pour que la Grèce reste dans la zone euro. On voit à peu près ce qu'il faudra faire par la suite parce que la Grèce n'est pas tirée d'affaire, simplement parce qu'elle va retirer 7,2 milliards d'euros de la communauté internationale. La Grèce n'est pas tirée d'affaire pour autant. Il faudra reconstruire ou construire un État grec dans les 10 années qui viennent. Donc le chantier est immense. Mais si on voit assez bien ce qu'il faudrait faire dans ce domaine-là, en revanche, en cas de faillite, en cas de défaut, comme on dit chez les spécialistes de la Grèce, le 30 juin ou le 1er juillet, là, on est dans la politique fiction absolue. On ne sait pas du tout ce qui va se passer.
D'autant qu'on pourrait dire l'une chante l'autre pas, Quentin Dickinson. Là, en l'occurrence, hier, alors qu'on ne sait pas encore vraiment ce que se sont dit Monsieur Tsipras et Monsieur Juncker, on sait que le FMI a jeté l'éponge, lui, en disant finalement les conditions d'un retour, enfin les conditions des réformes que nous demandons pour accéder à ce nouveau prêt à la Grèce ne nous conviennent pas, a dit le FMI, qui est reparti de rechef à Washington. Alors quand l'un est content et que l'autre ne l'est pas, tout est à nouveau en panne.
Oui, il est certain que la décision du FMI de retirer au moins provisoirement les négociateurs du Fonds monétaire international et de les rapatrier à Washington n'est pas un signe très encourageant. Cela dit, ils peuvent revenir du jour au lendemain, mais c'est un signe également de l'agacement. Il faut savoir que dans cette négociation, le FMI a toujours été beaucoup plus dur, beaucoup plus ferme vis-à-vis des Grecs que l'était la Banque centrale européenne et la Commission européenne. Donc effectivement, il y a là un double jeu. Il n'y a pas uniquement un jeu entre le FMI et la Grèce, mais un jeu entre le FMI et les institutions de l'Union européenne.
Frédéric Bétézeau,
si je puis me permettre de vous interrompre, on m'annonce à l'instant l'arrivée de Monsieur Juncker dans 3 minutes.
Eh bien voilà qui tombe bien justement l'arrivée de Monsieur Juncker. Vous disiez donc l'arrivée de la politique.
Oui, l'arrivée de la politique et on a le sentiment, Quentin Dickinson, que depuis la nomination de Monsieur Juncker à la Commission européenne, cette commission est plus dans l'initiative, elle est plus proactive. On l'a vu par exemple sur les quotas de migrants. Alors les chefs d'État et de gouvernement ont dit non. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est à nouveau cette Europe supranationale, cette Europe fédéraliste qui reprendrait le pas sur l'Europe intergouvernementale? On se souvient, 2008-2009, c'est les chefs d'État et de gouvernement qui ont empoigné la crise. On se souvient de Sarkozy et Brown notamment. Est-ce que le balancier repart vers le supranational?
Vous savez, quand il y a un excès dans une direction, le balancier finit toujours par revenir dans l'autre direction. Et c'est un peu une réaction tout à fait normale. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que, comme les contradicteurs de M. Barroso le prétendaient lors de son départ, c'est qu'on avait connu un château de la Belle au Bois Dormant pendant 10 ans du règne de M. Barroso dans le bâtiment d'en face. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai que c'était une Europe extrêmement institutionnalisée, où les décisions partaient de chez les techniciens, étaient avalisées par les ministres. Aujourd'hui, c'est autre chose. C'est la Commission européenne, le collège des 28 commissaires qui dirige la maison, qui est en train de la réformer de l'intérieur et où il y a effectivement, même ce qui était impossible à imaginer il y a 5 ans encore, il y a une gradation des commissaires. Théoriquement, vous savez, chaque pays a un commissaire et ces commissaires sont réputés équivalents. Dans les faits, monsieur Juncker a instauré un système où il y a des super commissaires qui sont vice-présidents et qui pilotent des commissaires. Mais c'est assez subtil.
Expliquez-nous par exemple, oui. Pierre Moscovici, il est où, pour que les Français comprennent bien?
Alors, c'est très subtil. Pierre Moscovici, comme les autres commissaires qui ne sont pas vice-présidents, ont la tutelle directe sur les directions générales de leur portefeuille.
Mais au-dessus de lui?
Mais au-dessus de M. Moscovici, il y a un vice-président, en l'occurrence, surtout M. Dombrovskis, qui est un Letton, l'ancien Premier ministre Letton, qui, lui, n'a pas barre administrativement sur les services. Donc c'est intéressant parce que il y a là une entité politique, un niveau politique et un niveau politique qui contrôle directement les services. Il y a une affaire en deux niveaux, si vous voulez. Et avec, au sommet de l'édifice, le premier vice-président Frans Timmermans, qui est un social-démocrate néerlandais, et le président Juncker, qui est un...
Et ça, c'est moins techno, alors.
Alors, vous dites ça, vous dites c'est intéressant.
C'est moins techno,
certains vous diraient, certains vous diraient, c'est une machine à gaz, quand même.
Non, pas du tout. C'est extrêmement subtil, parce que ça impose, effectivement, un contrôle politique à tous les étages, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y avait une espèce de hiérarchie en forme de cascade. Aujourd'hui, il y a une responsabilisation politique sur chaque décision. Et regardez la composition de cette commission, c'est du jamais vu. Souvenez-vous, il y a 30 ou 40 ans, la Commission européenne, c'était des hauts fonctionnaires délégués par leur pays. Très rares étaient ceux qui avaient une expérience ou une responsabilité politique antérieure. Aujourd'hui, vous avez les trois quarts des commissaires sont d'anciens ministres, voire d'anciens chefs de gouvernement. Ça ne peut pas être autrement qu'une reprise en main du politique sur le technique.
Frédéric Mettezo.
Quentin Dickinson, est-ce que vous pouvez nous expliquer à nos auditeurs qui nous disent « Mais souvenez-vous, la France a voté non, on ne voulait pas de cette Europe-là », expliquer à ces auditeurs de France Culture à qui ces commissaires européens rendent-ils compte ?
Donc je note que certains, déjà sur Twitter, commentent l'émission d'aujourd'hui en disant « Oui, c'est bien joli d'aller là-bas, mais on a voté non pour beaucoup hein, qui se manifestent en ce moment sur le compte des matins. » Quentin Dickinson.
Eh bien, il faut savoir ce à quoi on a voté non, ce contre quoi on s'est insurgé. Et quand on regarde le camp du non, effectivement, lors du référendum sur le traité constitutionnel, on s'aperçoit qu'il y avait au moins 15 raisons différentes et généralement antinomiques de voter non.
Les commissaires européens, Jean-Claude Juncker, à qui rendent-ils compte ?
Ils rendent compte effectivement d'abord aux États qu'ils ont nommés indirectement, mais surtout ils sont responsables devant le Parlement européen. Le Parlement européen qui est élu au suffrage universel direct tous les 5 ans.
Dans un instant, nous écouterons Brice Couturier pour connaître quelle était la teneur au fond de la chronique qu'il ne manquera pas de soumettre à Jean-Claude Juncker. Quentin Dickinson, est-ce que vous l'avez vu beaucoup changer, cet homme, et beaucoup évoluer d'une manière ou d'une autre, puisque moi j'aime bien relever évidemment les boutades ou autres Jean-Claude Junckerries, je ne sais comment il faut dire. Il a par exemple un jour déclaré « tout a une fin, sauf la saucisse ».
Oui. C'est tout à fait exact. C'est un homme qui a le sens de la formule. Est-ce qu'il a évolué ? Évidemment, il a évolué. D'ailleurs, il entre ici même dans ce studio. Jean-Claude Juncker, qui, conformément à son habitude, salue chacun des participants, tous ceux qui sont dans le couloir. Il fait le tour de la table.
Voilà, c'est du vrai direct. Et je rappelle c'est que nous sommes en direct du Centre international de presse au Résidence Palace. Monsieur le Président, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue au matin de France Culture. Je vous en prie, prenez donc place. On essayait de faire, Monsieur le Président, en douce votre portrait. J'ai essayé de comprendre le personnage politique que vous êtes à travers notamment quelques-unes parfois de vos facéties. Hein, il faut que tout ait une fin, sauf la saucisse, avez-vous dit un jour. Oui. Ou encore, la graisse m'empêche de dormir. Je note qu'à l'instant, fidèle à votre décontraction, vous venez de faire un petit bisou sur la joue droite de Quentin Dickinson. Enfin,
Vous dérangez notre intimité.
Je suis là pour ça, Monsieur le Président. Je voudrais vous poser une première question très simple, à vrai dire. Inspirant justement de ce que vous avez dit un jour, cette histoire de la question grecque m'empêche de dormir. Est-ce que vous avez passé une bonne nuit, Monsieur le Président de la Commission européenne ?
Elle fut partiellement grecque, mais j'ai bien dormi.
C'est-à-dire ?
Enfin, j'ai fait le tour de la question hier avec le Premier ministre grec, que j'ai vu pendant 2 heures, après l'avoir vu de si nombreuses fois. J'ai formulé un certain nombre d'observations et de propositions sur lesquels le gouvernement grec s'est penché hier soir.
Est-ce que le départ du FMI est une fois de plus quelque chose qui va retarder les accords qui doivent notamment donner en sorte de faire en quelque sorte que la Grèce ait son prêt à la fin juin?
Le FMI n'a pas annoncé son départ, mais le FMI a attiré
les négociateurs
l'attention.
Sont partis.
Oui, mais enfin, ça arrive souvent. Ceux qui partent doivent toujours revenir, et je crois que comme un accord entre les trois institutions, Banque centrale, FMI, Commission est nécessaire pour pouvoir avancer, que les négociations vont reprendre sur un plan technique d'abord, politique ensuite.
Que vous êtes-vous dit avec M. Tsipras? On dit que parfois et tantôt les relations sont bonnes, puis elles sont à nouveau tendues, et qu'au fond, lui, il est coincé entre ce qu'il vous dirait à vous et ce qu'il doit dire ensuite, hein, quand il rentre chez lui en Grèce avec un parlement chauffé à blanc contre les directives européennes et surtout contre l'Allemagne, M. Juncker.
C'est un vrai problème qui n'est pas l'exclusivité de la Grèce. Très souvent, les premiers ministres, tout en ayant le même discours, doivent choisir des expressions différentes suivant le public auquel ils s'adressent. Moi, j'ai toujours essayé de ne pas tomber dans ce panneau, mais en disant la même chose dans les mêmes termes et partout. Mais il est évident que le Premier ministre grec doit en découdre avec sa propre majorité qui se distingue par le fait que son parti n'est pas un vrai parti, mais une addition de mouvements de sensibilité, de sentiments et de ressentiments. Et donc, il doit, à chaque pas, considérer la meilleure façon possible de convaincre ses troupes.
Est-ce que vous lui dites parfois, mon cher Alexis, il ne faut pas tenir ses promesses de campagne électorale?
Non, je ne dis pas ça, mais tout le monde est responsable des promesses qu'il a faites, qui n'engagent que celui qui les formule, à ce qu'il paraît d'après un homme politique français, non. Je ne m'infiltre pas dans ce débat gréco-grec, c'est l'affaire des autorités grecques, du Parlement grec, du gouvernement grec. Ils doivent expliquer leur démarche par rapport aux propos qu'ils ont pu tenir pendant la campagne électorale. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon souci, mais c'est un élément que j'ai sur le radar.
Monsieur Juncker, comment vit-on quand on est montré par une partie de l'opinion européenne comme, au fond, tenez, Christopher Lee vient de mourir, Dracula, comme une espèce d'étrangleur, d'étouffeur de populations du Sud sans cœur et sans préoccupation de questions sociales, voire humaines, Monsieur Juncker?
Il a dû échapper à votre observation, que j'aurais souhaité plus profonde, que je suis parmi les hommes politiques les plus populaires en Grèce. C'est une réelle performance. Après les programmes que nos amis grecs ont dû appliquer, compter parmi ceux en lesquels les Grecs ont confiance, m'honorerait si vous avez attiré l'attention de vos auditeurs sur ce fait.
D'accord, j'essaierai de voir tout à l'heure et de vérifier ce que vous me dites, monsieur.
Non, vous n'avez pas besoin de perdre votre temps et d'écourter vos loisirs, c'est comme ça.
Donc les Grecs vous adoubent. Dites la chose la pire pour vous.
Non, mais
ce serait que la Grèce sorte de l'euro.
Oui, non, mais j'ai une grande préoccupation. Les programmes d'ajustement qui ont été mis en place et qui ont dû être mis en place ont conduit une large partie de la population grecque au seuil de la pauvreté. Il y a 25% des Grecs qui ont été éjectés des systèmes de sécurité sociale. Le chômage, et notamment des jeunes, est trop élevé, très élevé. Les Grecs sont malheureux. Les Grecs, les citoyens grecs, surtout ceux qui sont dans le besoin, et il y en a beaucoup qui sont dans le besoin, ne voudraient plus voir la politique d'austérité être reconduite et même intensifié. Donc, ma seule préoccupation à moi, ce sont les Grecs. C'est pas le gouvernement grec, c'est pas le Parlement grec. Moi, lorsque je dis que la Grèce m'empêchait de dormir, c'est parce que j'ai beaucoup de contacts en Grèce. Je téléphone 3 fois par semaine à des amis grecs pour leur dire, dites-moi ce qui se passe dans les rues. Dites-moi comment vivent vos amis. Ils me disent, voilà, ils n'ont pas d'argent pour payer les médicaments, les pharmacies n'ont pas l'argent pour s'approvisionner en médicaments, et je pourrais continuer la liste. Donc, je me sens très proche des Grecs qui souffrent.
Et alors du coup, ce sera ma dernière question avant le journal, Jean-Claude Juncker. Quid en revanche de l'Allemagne, le magazine Bild qui doit paraître aujourd'hui fait état de consultations concrètes par le gouvernement allemand sur ce qu'il faudrait faire dans le cas d'une faillite de l'État grec. Les discussions portent entre autres sur l'introduction d'un contrôle des changes en Grèce et la question d'une décote de la dette grecque est également discutée aujourd'hui.
Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement allemand.
Et que craignez-vous de Madame Merkel, qu'elle soit inflexible?
Je ne crains rien de Madame Merkel. Et je voudrais dire une fois pour toutes, mais c'est un message qui ne passe pas, que l'Allemagne n'est pas parmi les pays qui furent les plus exigeants à l'égard de la Grèce. La Finlande, l'Autriche, les Pays-Bas, la Slovaquie, la Slovénie, Malte ont été et sont toujours plus exigeants que l'Allemagne. Et pour une raison, je dois dire, compréhensible. Le SMIC dans ces pays-là est moins élevé qu'en Grèce. Les pensions dans certains de ces pays-là sont moins élevées qu'en Grèce. Exiger d'un ministre des Finances slovaque d'aller au Parlement à Bratislava pour essayer d'avoir l'appui de son Parlement sur un programme qui, en fait, ne reflète pas la réalité slovaque, qui est autrement plus grave que la réalité grecque.
Jean-Claude Juncker, est-ce que, président de la Commission européenne, que vous êtes depuis un peu plus de 6 mois, c'est un métier que vous rêviez de faire, ou est-ce que parfois vous vous dites vraiment quel chantier, quelle complication?
Oui, enfin, c'est un chantier fertile en surprise.
Alors que les populismes montent en Europe, oui, les europessimismes, oui, les euroscepticismes.
Le plus nous suivons les populistes, plus grande deviendra l'influence des populistes. Donc il ne faut pas suivre les populistes, il faut leur dire le contraire.
Le résultat des élections montre que les populismes montent, monsieur le Président.
Oui, mais enfin, je ne suis pas aveugle. Je vois tout ça. Ils montent aussi parce que des partis politiques traditionnels disent souvent, en d'autres termes, la même chose que celles qui sont reflétées par les tendances populistes.